Voici Dépasser la nostalgie, un documentaire d'Emily Maxeymous.
En Égypte, certaines figures de femmes ont marqué l'histoire de la musique du pays. Elles sont progressivement devenues une partie importante de nos quotidiens, que ce soit dans nos foyers, au café, en prenant la voiture ou en fait en tout genre. Elles ont pour certaines marqué notre relation au son et aux sensations qu'il peut procurer. On a alors consacré à certaines de ces femmes des expositions, des livres, des travaux de recherche académique. On en a érigé quelques-unes comme divas inatteignables appartenant à une époque qui aurait de nos jours disparu, tandis que d'autres ont été oubliées académiquement et institutionnellement car signataires d'une musique pop influencée par l'Occident, méprisée malgré sa popularité. De manière assez évidente, chaque génération de femmes a eu sa spécificité musicale, culturelle et politique. Si l'on prête attention à la musique de Mounir El-Mahdiya, la première femme à monter sur scène pour chanter en Égypte, aussi appelée Sultanat el-Torb, puis à celle d'Oum Kalsoum, de Ward l'Algérienne, Nagat el-Serir, et quelques décennies plus tard, Shirin ou Anne Rem, une forme de continuité musicale se trace. Étant donné les présences fantomatiques de celles qui sont décédées ou l'omniprésence toujours d'actualité de celles qui sont en vie, de quelle manière les héritages de ces femmes se manifestent-ils? Comment ont-elles influencé ou influencent-elles toujours des artistes actuels? Quelle forme ces influences prennent-elles en dehors des schémas musicaux prédéfinis et dans des temporalités nouvelles? Alors que les charts sont toujours dominés par les artistes pop en Égypte et depuis quelques années des rappeurs, qu'en est-il des autres formes d'expression musicale? Depuis l'été 2023, j'ai cherché à répondre à ces questions en m'aventurant dans les récits intimes d'artistes émergents aux propositions alternatives et situées au Caire. Tout d'abord, faisons un bref saut dans le passé.
طبعاً جداً أنا طول عمري بعشق حاجة اسمها وردة. وردة بالنسبة لي حاجة أساسية جداً في حياتي وفي يومي وبالنسبة لي هي بجد من أهم المغنيات.
نادا نادر, chanteuse, rappeuse, auteur. Toute ma vie, j'ai adoré la fameuse Warda. Elle a une place importante dans mon quotidien et c'est à mon sens une des chanteuses les plus importantes de l'histoire du monde arabe. Elle a quelque chose de particulier, sa voix est pour moi incomparable. Elle m'a beaucoup influencée, et précisément dans ma manière de chanter qui est inspirée du tarab. Et même en explorant des nouvelles musiques, elle m'inspire, me donne des idées de paroles, de sentiments à transmettre ou même de samples. Même si je fais quelque chose de différent, je dois reconnaître son impact sur moi et la manière dont elle continue à m'influencer au fil des années.
وي اجمل حاجه عملتها في رمضان ان هي معانا كل يوم ويا رب تفضل معانا على طول
يا رب خليكي يا رب
خليكي يا حبيبي صحه طيبه ان شاء الله
archive internet de Shirin Abdelwahab croisant Warda lors de la fête du Eid en 2006. Warda félicite Shirin quant à ses débuts de carrière et partage sa fierté de la voir prendre la relève.
مني لانها فنانه كبيره
تعلمتي منها ايه كفنانه يا شيرين
ان انا اكون على المسرح يعني الفنانة وردة مطربة ستيج مطربة حقيقية مش مطربة ألبومات بس
رياض فهي الفترة دي اللي أنا عشتها يعني فترة البوب اللي هي بتاعت الألفينات فدي كانت يعني بالنسبة لي بصراحة يعني وأنا صغيرة لأ كانت رايزنج
دينا أمين شانتوز اي اوتير La période de la pop des années 2000 était pour moi dingue. Elle était très puissante. Ce n'était pas forcément des genres variés. On restait toujours le même style de pop arabe, mais il y avait beaucoup d'artistes différents. La période était riche, même si c'était de la pop commerciale. C'est la période où Nancy Ajram, Haifa Werbe, Myriam Fares, etc. sont apparus. Il y avait sûrement d'autres artistes plus anciens qui étaient présents, mais puisque c'est cette période que j'ai vécue enfant, ce sont ces artistes que j'écoutais le plus. Après, il y a les plus anciennes comme Samira Saïd, Fairouz, qui sont évidemment des icônes.
Co-producteur
de musique, artiste visuel et sonore.
Oui, il y a clairement quelque chose qui lie les artistes de cette époque. Il y avait une certaine importance accordée au fait de préserver un son arabe, un son de la région, tout en essayant de se connecter avec ce qui se passait dans les univers MTV, très flashy, très pop, etc.
Dès la moitié des années 90, l'époque que les intervenants décrivent comme étant d'une grande importance, un phénomène dépassant les frontières arabes s'installe, celui de la pop poussée par des chaînes comme MTV, accompagnée de clips vidéo au style nouveau. En Égypte, le groupe dominant est le saoudien Rotan, hébergeant depuis 1987 Rotan Music, le plus grand label musical du Moyen-Orient. Vers la même époque, quelques années plus tard, l'égyptien Nasr Mahous lance Free Music, autre label concurrent ayant notamment lancé la carrière de Shirin Abdelwahab en 2002. Le format de la durée musicale est radicalement réduit, puisqu'il faut pouvoir diffuser les morceaux en les enchaînant à la télé, et les clips vidéo deviennent des outils de communication et de marketing majeurs. Les artistes de cette époque ont représenté un modèle de femme nouveau, celui d'une artiste se devant d'être musicale et visuelle, en opposition aux artistes de l'ancien temps qui certes se devaient d'être présentables, notamment en tant que femme, mais qui n'avaient pas l'imposition d'une esthétique particulière, d'une esthétique vidéo.
الناس دي البنات دي لما طلعوا المغنيات حاسه ان هي كان فيها شويه شوك يعني اللي هو ليه بيداري كده واخصمك اه دول كانوا اغنيتين يعني
J'ai l'impression que les femmes qui ont émergé à cette époque ont provoqué un certain choc. Les titres « Le Badarikeda » ou « Aros Mak'a » ont choqué le public égyptien. Si on regarde les clips aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais à cette époque, quand Ruby est apparue, on s'est demandé « qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que cette audace ?» Les artistes de cette époque ont sûrement reçu des retours négatifs, des retours sur le fait que c'est trop audacieux. Mais je sens que depuis, on accorde de l'importance aux clips vidéo qui peuvent être audacieux et libérateurs. Que depuis, on fait plus de clips où l'on accepte qu'il y ait un peu de provocation. Tu vois ce que je veux dire ? À la fois, il y avait un choc et en même temps, les chansons étaient des hits. En ce qui me concerne, quand les clips passaient à la télé, on se réunissait devant avec ma famille, par exemple, et on était tous surpris. Surpris parce que ça n'existait pas avant. Mais c'était une période riche pour ce genre de musique. Peut-être qu'à cette époque, il y avait une focalisation sur le fait de faire des clips et de la musique d'une certaine manière pour réussir à la vendre. Le shift s'est fait dans l'ajout des visuels, alors qu'avant, on regardait des chanteuses sur scène, devant un orchestre. C'était assez classique.
Ces clips étaient très amusants à regarder, très intéressants. Que ce soit Haïfa ou Nancy Ajram, toute cette période de vidéoclips était super amusante. On attendait vraiment leur sortie. Ces clips étaient vraiment importants pour les femmes car ils les montraient d'une manière différente et ça a sûrement dû influencer la vision de la diva.
Diva, بالنسبالي, هي مغنية.
Samar Tariq, chanteuse, compositrice et auteur.
Une diva pour moi, c'est une chanteuse, une bonne vocaliste qui arrive à créer un produit. Enfin, si on peut l'appeler un produit. Qui sort un morceau, qui sort une chanson où elle a travaillé les paroles, la composition et le chant et qui trouve un moyen de le vendre auprès des gens.
Être une diva, ce n'est pas seulement une question de talent. Il faut que tu sois quelqu'un d'intelligent, qui sait ce que les gens veulent écouter sans perdre ton identité. Sans que tu perdes ton originalité, mais que tu trouves des moyens de communiquer à ton public. Puis ce dont je t'ai parlé sur le charisme est super important. Il faut que tu aies confiance en toi et que tu saches comment utiliser tes compétences pour parvenir à ce que tu veux faire.
Moi, quand je pense à la diva, je pense toujours à cette forme de performance. Ce style très étincelant. Dalida, par exemple, c'est une diva. Et en même temps, elle a pu chanter des choses tristes, des choses joyeuses. Elle avait le sens de la performance. Dalida, c'est une des personnes, une des artistes qui m'a le plus influencée. Que ce soit dans la voix, dans les paroles, les choix de sujets avec des chansons comme Parole, Bambino, où tu écoutes une histoire, mais en chanson. Quand j'ai commencé à chanter, je me rappelle que je faisais toujours des covers d'elle. Elle était partout à mes débuts. Donc oui, évidemment, Dalida, elle représente la diva égyptienne totalement complète avec la performance sur scène, etc.
La pop mainstream égyptienne, depuis ses apparitions jusqu'à aujourd'hui, pose problème sur beaucoup de points et il est important de les reconnaître. Les femmes y sont souvent représentées de la même manière, soit hypersexualisées, soit en position de supplication pour l'attention des hommes. Et même lorsque des chanteuses ont pu avoir des discours féministes, notamment autour de l'indépendance et de l'indépendance financière et relationnelle dans leurs morceaux, une limite se pose. La pop a aussi été infiltrée dans les années 2000 par des discours ultranationalistes en soutien aux régimes successifs, bien que la tradition nationaliste en musique en Égypte ne soit pas propre à cette époque. Or, ce fait peut coexister avec l'apport émotionnel que ces artistes ont su offrir à leurs auditrices. Si des femmes comme Shirin sont autant citées comme référence encore de nos jours, c'est bien qu'au-delà des problématiques de l'industrie pop, elles se sont inscrites dans notre mémoire collective. Les morceaux de ces artistes nous permettent de revenir à des instants précis de nos vies, à des sentiments, des images ou même des mots. La chanteuse Shirin emploie d'ailleurs une expression intéressante, celle de chanteuse de scène, dans un entretien avec Billboard Arabien. Cette expression permet de situer l'importance qu'a la maîtrise vocale et la performance sur scène, malgré le fait qu'on soit déjà passé à des registres plus courts et commerciaux.
Interview de Shirin Abdelwahab pour la chaîne YouTube de Billboard Arabia.
Moi, mon objectif était de toucher tout le monde, toutes les générations, et je suis vraiment heureuse parce que toutes les générations m'aiment, que ce soit les jeunes, les personnes âgées ou les ados, au point que même des morceaux sortis il y a 20 ans rencontrent encore du succès aujourd'hui. C'était mon objectif et je l'ai réussi. Quand ils m'ont fait chanter sur la scène de Bahr el-Bek, 48 ans après Umm Kulthoum, alors qu'aucun autre artiste égyptien n'y avait performé depuis, j'ai compris que les gens n'écoutaient pas seulement mes CD et mes chansons. Non, ils se déplacent aussi pour me voir, et je suis heureuse car je performe souvent sur scène. Et ça, c'était mon rêve depuis le début, d'être une chanteuse de scène.
تجرب احساسي صعب عليك.
J'aime Shirin en général, j'aime beaucoup sa voix et je l'écoutais beaucoup car elle était très présente en grandissant. On jouait ses cassettes dans la voiture avec ma mère. Ma mère l'aimait beaucoup aussi, donc elle était très présente et... Je ne sais pas, dès que j'ai commencé à sampler des morceaux de musique, je me suis dit que c'était peut-être une porte d'entrée à la nostalgie de cette époque, à des sensations propres à cette époque. Et au tout début, j'ai produit un morceau qui s'appelle Katir sur une compilation de Hirsch, le label Hirsch. Ça, c'était la première fois que je semblais Shirin sans que l'on entende sa voix. C'était genre 2 secondes de cordes d'une prod de Shirin que j'ai étirée. Puis j'en ai fait des boucles jusqu'à ce que ce ne soit plus reconnaissable. Ça, c'était la première chose. Puis après, j'ai essayé d'avancer sur cette voie. Donc Shirin, elle est venue un peu, pas par hasard, mais il y a quelque chose que j'ai écrit pour la description de l'album qui est qu'elle transmet le sentiment d'avoir le cœur brisé de manière très juste. Enfin, c'est pour ça que j'ai appelé l'album comme ça, El Mossamé Shirin. Mais je devais le nommer aujourd'hui, je lui donnerai un autre nom. Hein. En tout cas, je l'ai appelé comme ça parce qu'elle donne l'impression qu'elle ne pardonne pas du tout, qu'elle a toujours un poids sur ses épaules, qu'elle n'est pas brisée, qu'elle n'est pas faible. Et qu'elle gère la situation en même temps qu'elle maintient le contrôle, que c'est celle qui décide du narratif. Ça m'a beaucoup plu. Quand j'ai commencé à fouiller, j'ai trouvé de plus en plus d'éléments qui s'associent à cette vision et qui sont presque comiques. Elle dit par exemple dans une chanson que Dieu te punisse. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Puis j'ai l'impression que sa personnalité est plus proche de sa musique, même si ce sont des auteurs qui écrivent pour elle et qu'il y a des compositeurs, etc. Sa personnalité dans ses interviews est proche de ce qu'elle est, elle. Ou même quand elle parle au quotidien, elle a l'air plus proche de ses chansons. Ça ajoute au fait que son personnage artistique et sa vraie personne ne font qu'un. Elle est complète. Il ne s'agit pas juste d'une voix de femme qui chante les paroles de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas parce qu'une œuvre fait référence à un héritage musical ou des éléments anciens que ces sons-là doivent être présents de manière littérale. Le fait que quelqu'un ait pu être influencé est suffisant. Que ces influences soient visibles ou non n'est pas forcément la question. Une œuvre ne doit pas forcément y être rattachée. Que ce soit une influence est suffisant et ce n'est pas obligé que ça soit retranscrit de manière littérale, comme par un remix ou une version moderne d'une chanson ancienne. Il y a beaucoup d'influences différentes et les manières dont elles se manifestent sont diverses et organiques, comme pour le Maraganat. Ce n'est pas juste une histoire de Shahabi électronique, ça a pris beaucoup de formes différentes et les outils de production ont été adoptés de manière diverse afin de parvenir au son actuel du Maraganat.
La la la. يعني هي مش وان مان تاسك فاهم قصدي في ناس كتير بتروح هنا وهناك فانا عاجبني مثلا سمر طارق بتعمل
الويلي producteur de musique
j'aime l'interprétation que Samar Tariq fait du tarab le renouveau de Donia Wael dans le Dumb Underground en même temps pour arriver à quelque chose de nouveau on doit s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà Personne n'a créé un genre de toute pièce. C'est toujours construit sur quelque chose de préexistant. Le métal, à partir du rock, etc., etc. Ce qui se passe, c'est les deux. On crée quelque chose de nouveau tout en prenant dans le passé. Par exemple, le titre « Là-haut » de Samar Tariq, c'est un gros hit. Je ne sais même plus, elle a accumulé combien d'écoutes maintenant. Et le concept en soi est simple. Elle pose sur un beat shabby avec un style de chant tarab. Tu peux pas dire que c'est de la trap, que c'est du magranat ou autre, c'est juste égyptien, et c'est une musique qui permet d'être intime. Cette formule va dominer, je pense.
You can't say it's trap, you can't say it's magranat, you can't say anything, بس مصري ويعبر عن الشخص بطريقة أحسن. Thank you.
جدا بفكرة الموسيقى المستقلة اللي ظهرت في مصر من فترة لأن هي فتحت باب تاني.
Je suis très contente de la musique qui émerge en Égypte depuis un moment parce qu'elle a permis aux artistes de pouvoir créer et atteindre des publics qui cherchent quelque chose d'alternatif, quelque chose de différent. Cette génération a aussi accès aux réseaux sociaux, ce qui fait qu'on peut partager ses créations aussi en ligne. Grâce à ça, tu peux toucher plus de gens.
تقدر من خلال ده توصل لأكبر عدد من الناس اللي ممكن تريليت للحاجة اللي انت بتقدمها.
هو بدأ يبقى فيه من فترة يعني في روم.
Ça fait un moment qu'il y a plus de place pour des choses différentes, comme par exemple le rap que tu évoques. Il y a quelques années, ça n'existait pas, mais maintenant les gens l'écoutent. On l'accepte au point où il a même pu devenir commercial. Donc il y a plus d'espace maintenant pour ce genre de musique, un peu entre deux comme ce que je fais. Par exemple, je ne suis pas une artiste commerciale ou mainstream ou indie. Après, il y a de la place, mais pas au point de pouvoir toucher un grand nombre d'auditeurs. Mais il y en a.
المساحة الكافية إن في جمهور بيسمعها كبير بس لا هي موجودة يعني.
عارفة أحسن فترة كان في تنوع موسيقى في مصر هي الفترة بتاعت من بعد الصوت.
Sulit Caesar, producteur de musique. Tu sais quelle était la période avec le plus de renouveau musical ici? C'était la suite de la révolution de 2011. Il y avait des fêtes partout, tu descendais dans la rue et tu pouvais écouter de la musique partout. Je pouvais aller vers Abden et il y avait des gens qui jouaient de la guitare. Je pouvais aller dans le centre-ville à des soirées électroniques expérimentales organisées par le label 1000 copies, ou aller dans des quartiers populaires où il y avait des mariages. Le renouveau musical était partout dans le pays parce qu'à la fin de la journée, on pouvait écouter de la musique autre part que sur YouTube. Il suffisait d'aller dans la rue.
Ça fait longtemps en soi que ces scènes s'installent. Il y avait Mariam Saleh, Dina El Wadidi par exemple. Il y avait plusieurs personnes pour qui ça n'importait pas de faire un hit, mais qui voulaient surtout partager quelque chose. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il se passait dans la musique. J'ai trouvé que c'était une manière de parler de soi et de s'ouvrir qui s'éloignait de la fausse réalité de la pop que la pop vend aux gens. Par exemple, le fait de parler d'un sujet de manière détachée, sans chercher à te toucher personnellement. Avant, tu ne pouvais te trouver que dans un état mental suite à l'écoute, comme lorsque tu es amoureux, et que tu vas aller écouter une chanson romantique qui puisse te faire rappeler ça. Donc le rap est apparu vers 2019, je crois, ou 2018. Il y a une nouvelle manière d'écouter et de s'identifier entièrement à quelqu'un d'autre.
ونسيت المفتاح على باب بيت هزيت الشجر والهواء واستنيت
فين الحفلات؟ يعني تشوفي انزلي كده النهارده انت جايه قاعده شهر بتاع شوفي كم مكان.
Maintenant l'industrie est bouchée. Où sont les concerts par exemple? Tu es là pendant un mois, donc regarde pendant que tu es là, où est-ce que tu peux aller assister à une soirée. Tu verras qu'il n'y a que deux ou trois endroits où aller, qui plus est, mettre l'accent sur un type particulier de musique. Ce qu'ils programment te bloque à un endroit très précis, donc c'est pour ça que c'est bouché. Maintenant, si tu crées des espaces, il y aura bien plus que du rap ou bien plus que de la pop. Il y aurait beaucoup de genres nouveaux. Ok, avec Internet, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de justice parce que tu n'as pas besoin d'aller dans un label ou un distributeur. La technologie fait que tu peux partager ça toi-même. Mais qu'est-ce qui va se passer après ça? Elle est là, la crise. Tu as l'impression que tout se termine sur Internet.
Le plus grand problème, c'est qu'il y a peu d'endroits où tu peux performer et que ça bloque les artistes à ne pouvoir publier qu'en ligne sans pouvoir aller plus loin. Il y a une place réservée à la pop, aux artistes de rap qui sont très connus et aux célébrités grand public. Eux ont le droit à des concerts. Même pas tant que ça en soi, hein, mais il y en a. Tous ceux qui se placent musicalement dans entre cette popularité et quelqu'un qui produit dans sa chambre et qui a 20 auditeurs n'ont aucune place. Il n'y a aucun endroit, il y a peu de soutien et je pense que c'est ça qui peut ouvrir à plus de genres et défaire le problème de la redondance musicale. Que si quelqu'un fait du rap, il n'a pas besoin de parler à 2 millions de personnes. Je pense que c'est ça qui peut défaire ce problème et qui ferait que tu n'es ni obligé de parler à un grand public, ni limité à exister que sur YouTube.
Par exemple, on a vu apparaître Donia Wael. Avant ça, il y avait Dina El-Wedidi et Mariam Saleh. Mais j'en reviens au point de départ, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de voix différentes, mais l'industrie est bloquée dans un endroit particulier. Il y a beaucoup d'artistes qui arrivent en tendance, mais regarde Donia Wael par exemple. Elle chante depuis combien de temps? Elle fait des choses incroyables. Et quelle popularité a-t-elle atteint en Égypte? Au final, sa musique est juste intégrée à un film ou une série. Où est Donia Wael dans les concerts? Au-delà d'être la première partie de Wegs, où est sa tournée? Où sont ses concerts? Où sont les interviews avec elle? Même celles qui ont réussi à s'installer comme Dina El-Wedidi, où sont ses concerts? Même histoire pour Mariam Saleh.
À l'écoute de ces entretiens, il semble qu'aborder les influences d'artistes émergents, c'est aussi faire le choix de la complexité, sans arriver avec des idées préconçues. La manière dont des figures de femmes célèbres, de pop stars entre autres, ont influencé des nouvelles générations est majeure. Or, c'est un fait qui peut, lui aussi, coexister avec la nécessité d'apprécier des formes artistiques plus récentes. Préserver le passé sans chercher à préserver le présent ou à laisser la place au futur est un frein pour tout artiste émergent. En ce qui concerne l'héritage de ces femmes dont on parle, comment devenir aujourd'hui ce que Chérine appelle une chanteuse de scène si cette scène n'est pas ou n'est plus accessible à toutes? Pourquoi, dès lors que le chemin emprunté n'est pas celui de la pop mainstream, dont la formule musicale peine à se renouveler depuis une dizaine d'années, les artistes se trouvent limités autant dans les moyens de production que l'accès à des publics diversifiés? En réalité, on ne peut évoquer les manifestations musicales actuelles d'héritage passé sans faire le constat d'un manque d'intérêt, de reconnaissance et de soutien concret pour les pratiques musicales alternatives. Où est la reconnaissance pour les chanteuses qui sont présentes depuis déjà plus de 10 ans comme Mariam Saleh, au-delà de sa popularité sur Internet? Il y a déjà 13 ans qu'elle publiait Mishbarani, puis le populaire Lirfa en 2017 avec le musicien Maurice Lou. Certains ont évidemment suivi cet élan comme l'agence de communication Simsor, où ils sont tous deux signés, mais aussi la brillante Nancy Mounir et Nadal Chazli il y a quelques années. Il y a aussi le label Terkiz à qui lui est rattaché, ou le maintenant clos Mostokel. La question de la modernité et de l'ambivalence artistique entre le dit nouveau et l'ancien, le passé et le présent, a été posée de nombreuses fois, que ce soit en tant que limitation imposée, pour s'inscrire dans la culture légitime, il faudrait s'inspirer du classique d'antan, ou en tant que remise en question de ses principes. Depuis 1932 et le célèbre Congrès de la musique arabe au Caire, la question de la modernité et de l'équilibre musical est omniprésente. Plusieurs visions de la musique arabe dite moderne se confrontaient déjà, il y a presque un siècle, entre ceux qui défendaient la tradition du torb et ceux qui souhaitaient utiliser la radio et le cinéma afin de développer une écoute de masse plus courte. Cette problématique, mêlée au conservatisme planant, a également été un des moteurs du débat autour des pop stars des années 90 et 2000, autant en ce qui concerne leur apparence que les mœurs entre guillemets, qu'elles incarnaient ou entravaient. Dès lors qu'un nouveau mouvement musical émerge, on le décrédibilise ou on le valorise selon son degré d'attachement au passé. Ce qu'on ne dit pas ou peu, c'est comment est-ce qu'on peut être attaché au passé tout en n'intégrant pas ses influences de manière clichée ou exploitée abusivement dans la création. Faut-il parler d'amour pour avoir de la reconnaissance ? Faut-il sampler ? Faut-il se positionner comme étant nostalgique d'une certaine époque ? Faut-il utiliser la formule de musique pop que l'on a vue et revue ? Quel intérêt pour toutes les nuances entre, pour toutes les vies que peuvent prendre des influences musicales en dehors de cette trajectoire ? Comment les manifester dans un contexte d'étouffement culturel, non pas par un manque d'artistes, mais bien par manque d'opportunités pour ceux-ci ? L'émergence d'une forme de nouvelle pop arabe des diasporas depuis 4 ou 5 ans me fait me poser exactement ces questions de nouveau. Pourquoi ces productions musicales reprennent-elles sans cesse les mêmes motifs musicaux dits arabes, ces mêmes rythmes de derbouka ou ces mêmes notes de violon ? Pourquoi les paroles tournent-elles toujours autour de l'amour, de la nostalgie ou de l'amour pour le pays d'origine ? Peut-être qu'au-delà de la question des héritages vivants, la question est celle de la place faite à des artistes du présent. La continuité musicale réside ici, car les influences sont mouvantes et sont en mutation perpétuelle. Elles ne sont pas vouées à être systématiquement retranscrites de manière littérale. Et c'est à nous, les auditoristes, les chercheurs, les artistes, de nourrir cette continuité musicale et historique en soutenant des initiatives locales et en s'ouvrant aussi à la diversité des possibles, en cherchant à valoriser celles et ceux qui cherchent à dépasser la nostalgie.
وهروح عينك كل لذاذة هاخد من اللحظة أجازة وهروح عينك كل لذاذة وارجع واحط البزازة واسحلني في
الحريه في التوبكس نفسها اللي انت هتناقشها في مزيكتك او الفن اللي انت بتقدمه. اه طبعا في حريه. يعني انا مثلا برضو مش عاوزه اغني اغاني عن على طول الحب.
Je ne veux pas avoir tout le temps chanter l'amour, la vie, et je ne vais pas non plus chanter la vie de rue comme dans le rap par exemple, parce que ce n'est pas mon expérience. Je veux avoir la liberté de chanter ce que je veux en dehors de la vie idéalisée et de l'amour. Comme influence, il y a évidemment beaucoup de gens, de grands artistes, mais je veux avoir ma propre voix et chanter sur des sujets différents sans être limité. Si je veux chanter l'amour, je peux, mais je peux aussi narrer l'histoire d'autres personnes et proposer quelque chose auquel les autres peuvent s'identifier. J'écris parfois beaucoup sur des choses qui ne sont pas mes expériences personnelles, mais celle de quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est ça que je veux présenter aux autres, quelque chose dans lequel ils peuvent se retrouver et partager une émotion que j'ai ressentie. C'est ça que je souhaite le plus, quelque chose d'authentique et pas quelque chose qui va être écouté juste pour rendre joyeux. Non, je veux pouvoir être aussi déprimante parfois, même si ça implique d'avoir un petit public, d'avoir peu d'auditeurs. Mais qu'au moins, ils puissent m'écouter et écouter ce que j'ai de pas joyeux à dire. Ça me rendrait heureuse.
Merci aux intervenants, à Dina Amin, Samer Tore, Solid Sisaizo, Kou ou Amr El Sadek, Elwaili et Nada Nader de s'exprimer sur leurs influences et leurs expériences. Ce documentaire a été écrit et réalisé par Émilie Maximus, en coproduction avec Radio Grenouille et Radio Campus Paris. Merci à Elia, Thomas, Valentine, Anouk, Bob et Léna d'avoir prêté leur voix pour le doublage. Merci à ma tante Anne-Joseph et ma mère Mona Joseph de m'avoir aidé avec la traduction du script en égyptien.
C'était Dépasser la nostalgie, un documentaire d'Emily Maximus.